With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, d'où entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très contente de recevoir à nouveau Marie Ruffier-Bourdet, alias Ergo Mums, sur les réseaux dans Milkshaker. Elle revient aujourd'hui pour nous parler d'un sujet très fréquent, la préférence sain-solide, comme elle l'appelle. Mais pour être précis, il faudrait parler de la préférence lait-solide, car vous verrez que cela ne concerne pas que les bébés allaités. C'est donc le fait, pour un bébé, de refuser la diversification, pour faire simple. Elle va nous expliquer comment on la repère, à partir de quel âge on observe ces signes, ce qu'on peut faire en prévention et si on sent que cela s'installe. Car un enfant qui ne veut pas manger, on sait tous comment cela peut devenir anxiogène et source de conseils non sollicités. Vous aurez dans cet épisode toutes les infos pour comprendre ce qu'il se passe et des pistes pour sortir des difficultés. Car oui, ce sont bien des difficultés et rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Donc c'est parti pour tout comprendre à la préférence sain-solide. Salut Marie, bienvenue dans Milkshaker, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
Toujours ravie de participer avec toi à des épisodes Charlotte.
Alors, donc Marie, est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui tu es, ce que tu fais dans la vie et le sujet sur lequel je te demande d'intervenir aujourd'hui, c'est la préférence sain-solide, tu vas nous en dire plus juste après, mais présente-toi.
Donc moi je suis Marie Ruffier-Bourdet, je suis ergothérapeute, j'ai un cabinet sur Dijon où j'accueille des jeunes enfants qui ont des troubles de l'alimentation en pédiatrie. Et puis à côté de ça, je suis nouvellement autrice, puisque j'ai écrit justement un livre chez Hachette Marabout sur mes premiers repas avec plaisir et sans stress, parce que l'idée aussi, au travers mon autre société qui s'appelle Ergo Mums, eh bien, c'est d'accompagner les parents dans la diversification alimentaire de leur enfant et dans toutes les questions sur l'alimentation, notamment entre 0 et 2 ans.
Ouais, j'ai reçu ce livre parce que Marie m'a fait le plaisir de me l'envoyer. Je l'ai lu et franchement, c'est un super outil pour vous, pour aborder la diversification et l'alimentation de votre enfant en règle générale. On y parle aussi allaitement, on y parle biberon, on y parle voilà, tout ce qui vient à la bouche de votre enfant. Et franchement, c'est hyper intéressant, donc je vous le conseille. C'est un super cadeau aussi à offrir à une maman en cadeau de naissance. Je trouve que voilà, c'est une belle idée plutôt que d'acheter des bodys. Acheter le livre de Marie, franchement, il est top.
Merci.
Ok Marie, donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un nouveau sujet. Je vous invite à éventuellement écouter ou réécouter Marie sur les épisodes qu'on a fait précédemment. On a fait un épisode sur sensibilité et sensorialité et allaitement, il me semble que c'est le numéro 25 de Milkshaker, qui est d'une richesse incroyable. Alors Peut-être que le titre vous interpelle pas plus que ça en tant que parent, mais c'est vrai qu'on l'avait un peu axé professionnel, mais vraiment il est hyper intéressant. Vous pouvez reconnaître des signes chez vos enfants qui peuvent vous laisser entendre qu'il y a quelque chose à travailler, et je le trouve super intéressant. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup appris à échanger avec Marie autour de cet épisode. Et puis, on en avait déjà fait un sur la diversification, dont je vais vous redonner le numéro tout de suite. C'est l'épisode 42 sur la diversification avec Marie. Et aujourd'hui, ça va être un peu une sorte de complément à cet épisode-là. On va parler de ce que Marie appelle la préférence sain solide. Elle va vous le dire très vite, ça concerne aussi les bébés qui sont biberonnés. Et donc, comment un bébé qui a des difficultés à s'intéresser au solide, comment on le repère et comment on va pouvoir un peu l'aider au quotidien. Donc voilà, ça va venir compléter l'épisode sur la diversification. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à écouter ces deux premiers épisodes. Ils sont vraiment super instructifs et vous allez y trouver beaucoup d'informations. Donc Marie, pour commencer, première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que la préférence sain solide ?
Eh bien, la préférence sain solide, ça va être un bébé qui ne va pas vouloir passer à l'alimentation solide. Par alimentation solide, on appelle, ça peut être la purée, mais ça peut être aussi les morceaux. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les morceaux. Et donc, le bébé va se réfugier dans l'alimentation lactée. Il va d'ailleurs rester dans cette alimentation, soit en allaitement ou que ce soit au biberon.
Comment on peut repérer que son bébé fait une préférence sain solide ?
Alors, on va parler de lune de miel, mais pas de lune de miel de mariage, de lune de miel pour la diversification. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des phases propices à des étapes dans le développement de l'enfant. Et notamment, la phase propice pour l'alimentation, c'est 6-12 mois. Ça veut dire que pendant cette phase-là, le bébé va mettre à la bouche tout ce qui se mange et tout ce qui ne se mange pas. Donc, si on observe que son bébé ne met pas à la bouche ou met à la bouche des choses qui ne se mangent pas, et identifie les choses qui se mangent et ne veut pas les mettre à la bouche, ça doit nous interpeller puisqu'il nous montre justement une faiblesse dans la transition entre l'alimentation lactée et l'alimentation solide qui doit se faire entre 4 mois révolus et 6 mois.
Ok, très bien. Donc du coup, le premier signe, c'est mon bébé ne met rien à la bouche.
Oui, ou choisi, c'est-à-dire qu'il peut aussi très bien, un bébé qui explore tout quand c'est pas des aliments, et dès qu'on lui donne un aliment, et ben paf, il ne le met plus à la bouche, et il nous montre que pour lui, l'aliment, c'est compliqué.
Très bien, et donc ça, c'est les 6-12 mois, mais dès 4 mois révolus, on va pouvoir observer des choses, c'est ça ?
Totalement, c'est-à-dire que dès les premières propositions alimentaires, dans mes retours cliniques, on observe des bébés qui vont être plus sensibles, avec plus de mimiques, plus de nauséeux, plus de refus, plus de comportements où ils vont se mettre à pleurer dans le transat, dans la chaise haute, où ils nous montrent que c'est un moment qui n'est pas agréable pour eux.
Est-ce qu'on peut rappeler quel est le bon moment pour diversifier un bébé ? Quels signes on doit repérer chez son bébé qui nous laisse penser que la diversification, c'est le moment pour lui ?
Alors, souvent, il nous montre qu'il est intéressé. Et c'est ça qui nous interpelle. Et il va avoir cette capacité, justement, d'emmener ses petits hochets à la bouche de façon autonome. Et on sait qu'aussi, cette période de 4 mois révolus va permettre une diminution des faiblesses au niveau des allergènes aussi. C'est-à-dire que diversifier, en tout cas proposer des allergènes entre 4 mois révolus et 6 mois, notamment chez les bébés qui ont des terrains sensibles, va faire qu'on va diminuer le risque de développer ces allergies. Et donc, à partir de la tenue assise, on peut proposer des morceaux. Mais le fait de proposer des purées avant les morceaux n'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par les purées et quand il se tient assis, proposer des morceaux. Donc souvent, la tenue assise, allez, c'est entre 6 et 9 mois en fonction des enfants. Mais disons que ça va être ces périodes-là qui vont être propices au développement alimentaire en purée ou en morceaux.
Ok, donc mon bébé ne tient pas assis tout seul entre 4 et 6, je peux, s'il a l'air intéressé, démarrer sur les purées, etc. Une fois qu'il tient assis, c'est le moment où on va pouvoir envisager de proposer les morceaux, mais dans il tient assis, c'est il tient assis quand je le pose et pas nécessairement il est allé s'asseoir tout seul, ce qui est différent. Parce que nous, en tant que thérapeute manuel, on est assez intransigeant sur le fait qu'on essaye de diminuer les phases, tu vois, où on assoit les bébés sans qu'ils soient allés s'asseoir tout seuls. On le fait qu'au moment des repas. mais on ne s'attarde pas sur cette notion-là. S'il tient assis dans sa chaise haute pour le temps du repas, c'est OK.
Et ça sera pas, tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas néfaste dans le développement de l'enfant de le mettre assis pour manger sur le temps. Ah, une fois qu'il a fini de manger, on le remet dos au sol par terre et il continue son exploration. Mais c'est pas 15 à 30 minutes qui va changer en fait le développement sensorimoteur.
Tout à fait, nous ce qu'on veut en tant que thérapeute manuel, c'est que les bébés en fait acquièrent ce passage de la position ventrale, quatre pattes ou tout ce que vous voulez, jusqu'à la position assis, parce que c'est cette proprioception aussi en partie qu'ils prennent en poussant sur leurs mains, en passant les fesses d'un côté, de l'autre, qui fait qu'ils vont avoir cette position trépied qui va être stable une fois qu'ils seront assis. Sinon en fait, si vous les asseyez avant qu'ils soient allés s'asseoir tout seuls, hors cadre d'une chaise haute qui est sécurisée, etc., déjà vous risquez qu'ils tombent et qu'ils se mettent la tête par terre et personne n'a envie d'aller aux urgences pour ça parce que ça arrive plusieurs fois par jour. Et en plus, au niveau proprioception, c'est pas OK. Au niveau moteur non plus, ça lui fait... Les bébés ont un programme moteur qui est intégré. Il faut les laisser le développer. Et donc, si on les assoit, bah, après, ils se mettent à se déplacer sur les fesses et tout. On les retrouve avec des hanches coincées. Enfin, voilà, c'est pas super.
Et après, nous, tu vois, en tant qu'ergothérapeute, t'as aussi des choses qui vont se mettre en place au niveau de l'occupation, comme l'écriture, la manipulation des outils. Parce qu'un bassin stable, des épaules stables... Et ben ça permet aussi d'utiliser ses membres supérieurs pour faire plein d'autres choses et les faire de façon habile.
Ok, très bien. Combien de bébés est-ce que ça représente cette préférence sein solide ? Donc le fait qu'il, on dira sein solide, mais on va dire la préférence lait solide, d'accord, pour faire simple.
Écoute, c'est quand même une prévalence qui est pas négligeable puisque on a jusqu'à parfois 50% des consultations en pédiatrie. Qui existent à cause d'une difficulté alimentaire. C'est-à-dire qu'à peu près 50% des parents vont aller consulter pour une plainte alimentaire. Alors, elles peuvent être de toutes sortes, mais on a quand même pas mal de parents qui vont se poser la question sur le passage à l'alimentation solide. Donc, c'est pas un pourcentage négligeable dans les difficultés que rencontrent les parents sur l'occupation du repas.
Ok. Difficulté alimentaire ne veut pas dire trouble alimentaire, trouble de l'oralité, etc. C'est, voilà, une difficulté peut se transformer en trouble si ça ne s'améliore pas, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Et je pense qu'on peut même préciser que, entre guillemets, il y a 3 à 10% qui vont pénaliser sur des troubles de l'alimentation. Et une des études que j'ai lues il n'y a pas très longtemps montrait très clairement que l'anxiété parentale, c'est-à-dire le fait que des professionnels de santé laisse les parents seuls, dans le sens « ça va passer, vous inquiétez pas, il est allaité, il a tout », mais que les parents ne savent pas comment amener l'alimentation solide et peuvent parfois l'amener maladroitement aussi ou avoir un tel stress parce que ça ne marche pas, que ça peut favoriser le développement de troubles. Donc, dans le sens où la prévention et l'accompagnement précoce quand il y a une difficulté alimentaire est indispensable à un développement alimentaire serein ensuite, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant.
Donc, question à laquelle on a déjà à moitié répondu, mais est-ce que c'est spécifique à l'allaitement ? Est-ce qu'on peut parler donc de préférence sein solide ? Ou est-ce que c'est plus fréquent au sein qu'au biberon ? Parce que l'allaitement, dans ces cas-là, est toujours incriminé. Un bébé qui ne veut pas manger, mais qui est au sein, oui, mais il veut que le sein de sa mère, tu devrais arrêter de l'allaiter. C'est un nid à idées reçues et à conseils non sollicités, cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors, ce qui va me chagriner, et tu l'as soulevé, c'est que malheureusement, arrive à une maman qui allaite, on va remettre en cause son allaitement. C'est-à-dire que, comme si c'était magique, on va lui dire d'arrêter d'allaiter pour que le bébé passe au morceau. Alors, un, déjà, cette recommandation est fausse, et deux, elle est dangereuse parce qu'en fait, l'enfant qui n'arrive pas à passer au morceau, eh ben, il a besoin de cet allaitement pour grandir et grossir. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est important que les mamans l'entendent aussi, que les professionnels l'entendent et qu'on n'ait plus ce discours-là, qui est un discours qui est faux et dangereux. Mais on sait que malheureusement, il y a plus de mamans biberonnantes que de mamans allaitantes, notamment à 6 mois, au moment de la diversification, parce qu'on n'est pas encore des super bien en France hein, par rapport à l'allaitement. Ça progresse, mais c'est pas encore majeur. Donc, on a beaucoup de bébés biberonnés qui vont aussi avoir cette difficulté. Et plus de bébés biberonnés que de bébés allaités, parce qu'il y a plus de bébés biberonnés que de bébés allaités. Donc, dans la proportion, c'est quelque chose qui va... Et qu'il faut que les mamans entendent et que les professionnels de santé entendent que la difficulté de passage au morceau, elle n'est pas liée à la façon dont on nourrit l'enfant en alimentation lactée. D'accord ? Donc, que ce soit biberon ou sein, l'enfant présenter la même difficulté dans la transition vers l'alimentation solide.
Ok, ouais, bah super, je pense que c'était important de le rappeler parce que c'est quand même souvent incriminé dans les histoires d'allaitement. Et donc c'est pas votre allaitement le problème, c'est votre bébé qui présente une difficulté et il va falloir trouver laquelle.
Totalement.
Donc, quand est-ce que je m'inquiète, entre guillemets ? Est-ce que je m'inquiète, aux 6 mois, âge de la diversification ? Est-ce que je m'inquiète tout de suite si à 4 mois, 4 mois et demi, mon bébé ne veut pas manger ? Qu'est-ce qui doit m'alerter déjà ? Alors, redis-nous les signes que le bébé présente quand on lui amène cette alimentation à la bouche et qui peuvent laisser penser qu'il montre une difficulté. Et quand est-ce que je m'inquiète ?
Alors déjà, c'est un bébé où, par exemple, tu vas lui poser une cuillère pré-remplie de purée et il ne va absolument pas la prendre et absolument pas la mettre automatiquement à la bouche, d'accord ? Tu vas lui mettre des aliments devant lui, il ne va pas y toucher. Et je dirais même que le bébé qui n'a pas de problème dans cette transition alimentation lactée solide, tu sais, tu vas l'avoir sur tes genoux, tu as ton assiette devant toi et en fait, tu es obligé de pousser ton assiette parce que sinon, il est en train de tout trifouiller et tout mettre à sa bouche. Comme il mettrait du sable à sa bouche, comme il mettrait de la terre, comme il met des cailloux à sa bouche. En fait, il est dans une exploration orale qui va diminuer à 2 ans, mais qui effectivement explose entre 6 et 12 mois. Donc cet enfant, ou si tu l'as devant toi et il ne veut pas te choper ton gâteau, il n'essaye pas de choper ta cuillère, eh ben, ça interpelle et ça nécessite un accompagnement. Donc... Quand s'inquiéter ? Ben moi, je dirais tout de suite. C'est-à-dire que il vaut mieux s'inquiéter tout de suite. Donc, effectivement, alors, attention, hein, on laisse quand même 2-3 semaines au bébé, notamment si on commence à 4 mois révolus à proposer une petite cuillère avec un peu de purée dessus. On va lui laisser 2-3 semaines d'habituation. Et surtout, on va être vigilant à proposer aussi des quantités qui ne vont pas être trop importantes. Un bébé sensible, si tu mets une cuillère complète dans sa bouche, il peut très bien surréagir. Du coup, il va trouver ça pas très bon, émotion négative, on veut plus. D'accord ?
D'accord.
Donc, dire que, et ça, je pense qu'on en avait déjà parlé à la diversification dans l'épisode, c'était que c'est une découverte. Donc, même si tu mets la quantité d'un grain de riz de purée sur ta cuillère, c'est OK pour le bébé et c'est OK dans la découverte. D'accord ?
Okay.
Donc, on lui laisse bien sûr un peu de temps quand même à 4 mois révolus, mais je dirais que à 6 mois, si on sent que ça reste compliqué, qu'il n'a pas envie d'y aller, qu'il n'a pas envie de toucher, qu'il n'a pas envie de mettre à sa bouche, ben, ça peut être intéressant de se faire accompagner parce que moi, tu vois, je les reçois au cabinet. Souvent, la deadline, c'est l'entrée à l'école, quoi. C'est-à-dire que ça ne passe pas. Et que ben, tu te retrouves avec des enfants qui vont avoir 3 ans, et des parents qui sont très, très inquiets parce qu'en fait, leur enfant ne mange pas d'alimentation solide. Alors, soit ils sont quand même passés à la purée, mais ils sont restés à la purée. Et donc, du coup, ils ne sont pas capables de manger à la cantine de l'école une alimentation solide qu'on va présenter pour un enfant de 3 ans.
Donc, du coup, ce qu'on doit regarder, c'est le manque d'intérêt. Du quotidien, en effet, j'ai mon assiette devant moi, il est à table à côté de nous et ça n'a pas du tout l'air de le brancher. Il préfère être sur son hochet ou je ne sais pas quoi que de regarder ce qui se passe à table. Et si jamais on lui propose quelque chose, c'est les réactions de défense, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un bébé qui va détourner la tête, fermer la bouche, pousser la cuillère, se mettre en extension, tu vois, dans des positions un peu où il va nous montrer que non, il n'a vraiment pas envie d'y aller. Et qu'il essaye de se détourner de ce qui est en train de se passer. Donc, ça semble être un mauvais moment pour lui, et ça l'est quand même.
Ouais. Éventuellement, si on lui met vraiment dans la bouche, il a un OZE, tout ça, quoi.
Exactement, ouais.
Donc, toi, en pratique, tu les vois finalement assez tard arriver, tu les vois quand les parents s'inquiètent pour la cantine.
Ouais. Ben oui, parce qu'il y a encore cette phrase « ça va passer », et il y a cette peur... qui est complètement légitime des fois d'avoir, quand tu vas voir un professionnel, comme je les appelle les thérapeutes en alimentation, donc ergothérapeute, orthophoniste, tu as peur de cette étiquette qu'on va mettre sur ton enfant, alors que, par exemple, nous, en ergothérapie, on peut nous consulter dès qu'il y a une plainte occupationnelle, dès qu'il y a une inquiétude dans le repas ou autre. Donc, ça veut dire qu'on, quand tu as une inquiétude ou quand tu as un stress, parce que, les mamans sont quand même, ou les papas, hein, mais ils sont quand même très justes dans leur observation. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est compliqué, il veut pas, je vois que ça ne marche pas. Donc eux, ils le disent, sauf qu'on les écoute pas vraiment. Et que du coup, on les laisse avec leur stress, leur angoisse, en disant « ça va passer, vous êtes trop stressé, laissez-le, etc. etc. » Sauf que, tu sais, l'enfant qui a une difficulté, il ne va pas aller dans sa zone d'inconfort, mais comme nous. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller tout seul dans ta zone d'inconfort. Tu as besoin des fois qu'on t'accompagne, qu'on te tienne la main pour aller faire quelque chose qui est un petit peu désagréable pour toi. Eh bien, cet enfant, il ne va pas aller tout seul dans sa zone d'inconfort. Donc, il faut certainement trouver des outils, des stratégies pour l'accompagner à aller de façon plaisir dans cette zone d'inconfort. Donc, dans la zone « je découvre l'alimentation solide » et aider les parents aussi à leur donner des outils et des techniques afin d'intéresser l'enfant à cette alimentation et à lui présenter de façon à ce que ce soit positif et plaisir lors de sa découverte.
Si j'ai un bébé mais quelconque, mais que je me dis qu'est-ce que je peux faire pour prévenir de ce souci ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont même, tu vois, des 4 mois ou entre 4 et 6, si on voit un petit signe qui nous chagrine, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cette préférence ?
Eh bien déjà, proposer des hochets qui vont aller dans la bouche de bébé. Tu sais, bien souvent, les hochets, ils sont un peu gros et ils restent devant. Et il faut savoir qu'il y a 2 réflexes qui vont être très importants pour pouvoir passer à une alimentation solide. C'est le réflexe d'orientation de langue que tu déclenches quand tu te brosses les dents. Mm-hmm. Tu vas mettre un hochet sur tes gencives latérales, ta langue va s'orienter du côté de la stimulation. Et ça, bah, ça va nous servir pour l'alimentation solide, donc pour les morceaux, pour la mastication, puisque ta langue va apprendre à faire des mouvements latéraux. Donc avoir des hochets longs et fins qui vont aller dans la bouche de bébé, qui va pouvoir orienter sa langue, c'est vachement important. Et la deuxième chose, c'est qu'on a le réflexe d'écrasement qui nous sert lors de la succion avec les pressions un peu alternatives, mais qui va beaucoup, beaucoup nous servir pour l'écrasement, voire la future mastication. Et ce réflexe d'écrasement, eh ben, pareil, il faut l'entraîner parce que bah, c'est un muscle qu'on va entraîner pour qu'il soit de plus en plus fort et de plus en plus coordonné afin de pouvoir gérer les aliments en solide. Donc, on va lui donner des petits hochets qu'il peut écraser entre ses gencives. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'on peut mettre en place et très tôt. C'est-à-dire qu'avant 4 mois révolus, le bébé, il peut manipuler des petits hochets et les mettre dans sa bouche.
T'as des styles de hochets à nous préconiser ?
Alors, moi, j'aime bien les Angel Bliss. Alors, c'est cracra parce que c'est Amazon, entre guillemets. Mais je rêve. Alors, je sais, mais réellement, en France, je n'ai pas trouvé encore un hochet Made in France, qui est long et qui aille sur les côtés. Donc, il y a les hochets Angel Bliss qui ressemblent à des petites bananes, qui sont très bien faits, en fait. Mais effectivement, on n'est pas dans quelque chose de top au niveau de la fabrication. Mais en tout cas, c'est top au niveau de l'idée. Donc, moi, je ne trouve que cela. Et après, tu vas avoir les pré-cuillères num-num que je m'en sers beaucoup en termes de hochets. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant, et ça tu vois c'est un point aussi que je vais énoncer après, c'est qu'avant que l'enfant puisse manger avec une cuillère, on peut très bien lui donner ses pré-cuillères afin qu'il travaille l'écrasement et l'orientation, et en plus je vais l'habituer à ces nouveaux outils qui vont lui servir à manger. Parce que bien souvent, tu sais, on arrive le jour même, on a acheté la cuillère dans le magasin avec le super bavoir, le pot, paf, on y va. Le gamin, il n'a jamais vu une cuillère de sa vie, parce que c'est vrai, on ne lui a pas vraiment donné de cuillère avant. Et puis, on lui propose la cuillère, et puis ben, il ne sait pas ce que c'est cet outil. Donc, il y a 2 inconnus, il y a l'outil et il y a ce qu'il y a dedans. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a des enfants que ça ne va pas gêner, et il y a des enfants où ça va être quand même un peu gênant. Donc, toujours proposer un outil en amont, pour que l'enfant s'habitue à ce nouvel outil. Et entre guillemets, ça peut être aussi le cas pour le biberon, par exemple.
C'est ce que j'allais te dire, parce que souvent, quand les mamans, elles me disent « Oh là là, je sais pas, il veut pas de biberon, etc. » et que ça fait juste quelques jours que ça dure, je leur dis « Mais déjà, proposez-lui vide et voyez ce que ça donne, qu'il s'habitue à l'objet, qu'il l'incorpore dans son quotidien. »
Autre chose qu'on peut dire aux mamans, c'est ce « just timing » que je parle beaucoup, beaucoup. Mais quand souvent, les mamans, on va proposer en premier, tu vois, solide, sauf que ton bébé il a faim, donc il veut s'auto-réguler avec quelque chose qu'il connaît et qui va vite. Quand l'alimentation lactée va vite, tu vois, dans les trains de succion déglutition, le bébé au début il les enchaîne très rapidement et ensuite ça ralentit quand il est rassasié. Et le problème de la cuillère, c'est que ça va pas vite, il n'y a pas beaucoup de quantité, je sais pas comment faire, j'ai la dalle. Donc, je ne veux pas de ton truc qui ne me nourrit pas, je veux du sein ou du biberon qui va aller beaucoup plus vite. Donc, Donc c'est aussi dire, parce qu'il y a aussi ça où on dit bah, souvent donner le biberon après. Comme si, tu sais, l'alimentation solide devait remplacer l'alimentation lactée, alors que l'alimentation lactée est là pour soutenir l'alimentation solide. Donc en gros, je vais donner mon alimentation lactée et mon bébé, après, il sera dans sa zone verte pour découvrir les aliments solides. Et ça, ça peut être quelque chose qui va aider aussi nos bébés un peu sensibles.
Ouais, ce qui semble logique dans la mesure où on considère que la diversification est une découverte et pas, enfin, on grossit pas avec, en mangeant des courgettes et des haricots, quoi.
Je sais pas si t'arrives à manipuler les baguettes, mais t'as ton plat de sushis, t'as hyper faim, tu kiffes les sushis. T'as tes baguettes où tu laisses tomber, tu sais, t'essayes de le prendre, t'as le riz qui se barre, t'as le saumon qui se barre de l'autre côté, t'essayes... À un moment donné, tu sais, tu prends la fourchette, tu prends le truc, tu le mets dedans, puis tu manges, quoi. Parce qu'en fait, t'en as marre, quoi. Enfin, t'as faim, t'as envie de tes sushis, t'as pas envie de...
Bah, moi, je manipule parfaitement les baguettes, mais bon.
Alors, tu te rends pas compte, que ça peut être frustrant de perdre ton saumon et de pas avoir ton saumon sur ton riz, tu vois.
J'entends très bien. Bah, il faut apprendre à manipuler les baguettes, que veux-tu, Marie? Non, mais je comprends très bien l'idée. C'est très clair quand on le dit comme ça.
Ouais.
On a dit...
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Le petit hochet là en forme de banane, je vous remettrai la référence. Les cuillères Nounum,
ouais,
qui sont super aussi et qui permettent d'appréhender l'outil avant de l'avoir dans la bouche.
Ouais, et puis tu peux orienter ta langue et puis mâcher un petit peu. Et puis tu sais, ces bébés qui mettent bien à la bouche leur hochet et qui ne veulent pas mettre des choses qui sont alimentaires. J'aime beaucoup les hochets Holly and Carol, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des aliments. Au point que ma grand-mère a voulu donner la banane à Victoria, en tout cas essayer de l'éplucher pendant quelques minutes sans se rendre compte que c'était pas une vraie banane. Donc je trouve qu'ils sont, très très ouais, visuellement réaliste. Ressemblants. Ouais. Et ces enfants, tu vois, qui vont pas mettre en bouche de l'aliment, un, ça va quand même les rassurer parce qu'au niveau tactile, ben, on n'est pas sur des vrais aliments, mais deux, ils vont quand même faire tomber cette barrière visuelle par rapport à l'aliment. Et ils ont une troisième chose qui sont assez intéressantes, ces hochets, c'est qu'ils sont, pour le coup, multisensoriels. T'as du gratte-gratte, t'as du doux, t'as du... Et en plus, ils ont ce côté proprioceptif, c'est-à-dire que tu peux les écraser dans ta bouche, un peu comme des aliments, tu sais, qui donnent cet aspect de... Bah, les cerises, par exemple, d'Holly & Carol, tu peux les écraser et puis donner cet aspect et encourager l'écrasement, puis la mastication.
Ouais, ils sont super. Moi, j'ai la banane, je l'avais avec mon fils, et puis maintenant, elle est au cabinet. Et c'est vrai que dans les moments où les bébés font les dents et tout, ils se le fourrent, là. Et en plus, ils sont bien conçus, parce qu'ils sont faits pour que ça aille profond, mais qu'ils puissent pas non plus les mettre dans le fond de la gorge, comme une cuillère. Enfin, ouais. Donc, c'est vraiment bien foutu.
Ouais. Et là, d'accord, tu vois ça, d'appuyer quelque chose, je pense, c'est la peur maternelle, ou paternelle, en tout cas la peur des parents, de que l'enfant le mette trop loin. Ouais. Et du coup, tu vois, on a tendance à pas donner des... Ou en tout cas, à quand ça rentre trop dans la bouche de bébé, d'avoir peur et de lui enlever. Mais si l'outil, si l'hochet, il est adapté, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que oui, ça peut déclencher un OSEE, qui n'est pas un étouffement. Et simplement, l'enfant, il va s'habituer à aller dans des zones et à sensibiliser correctement les zones de sa bouche. Donc, c'est important de lui laisser explorer aussi.
D'accord. Mais alors, du coup, tu entends par là que même la cuillère... à bout classique, s'il se la fourre dans le fond de la gorge, finalement, on s'en fiche, il va se débrouiller avec.
Alors ouais, alors attention, à bout classique, dans le sens où, tu sais, nos cuillères avec lesquelles on donne à manger, elles sont un peu longues. Donc moi, je laisse en toute sécurité le bébé avec sa num-num la mettre dans la bouche, donc la pré-cuillère num-num. Ouais. Par contre, je vais être un petit peu plus vigilante si c'est des longues cuillères, parce qu'il va la mettre beaucoup trop loin.
D'accord.
Il faut quand même se rappeler que le bébé, il n'est pas hyper habile avec ses mains encore, d'accord ? Donc, c'est de l'approximatif, quoi.
D'accord, donc c'est bien que c'est plutôt un bon point que c'est hoché, en plus, et a été conçu pour que ça n'aille pas non plus 10 cm plus loin, quoi.
Ouais, totalement, ouais.
Ok, d'accord. J'ai cru à un moment que tu disais que oui, mais enfin, c'est pas indispensable. Mais ok, c'était non. juste pour clarifier ouais. le truc. Ok, donc du coup, donc, ça, c'est pour l'intéresser aux mains-bouches, finalement, de façon générale, mais l'accès vers l'aliment. Donc, la nous-mêmes, la nous-mêmes.
Oh, on l'a dit comme on veut, c'est num-num ou comme tu veux.
La num-num. La num-num parce qu'elle est bien et qu'après, ça va être le même outil avec lequel il va pouvoir commencer. Ou une autre cuillère, finalement, si vous voulez commencer ouais. avec une autre cuillère pour tester, mais ça peut être intéressant de lui donner dans ses jouets en amont pour qu'il s'habitue ouais. à l'objet en lui-même. La banane, ouais. est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut proposer plus facilement, des formes, des textures, je ne sais pas, qui aideraient ?
Ouais. Alors, tu viens de souligner quelque chose, des aliments qu'on peut proposer. Il faut aussi se détacher de l'injonction « bébé doit mettre tout seul à la bouche les aliments ». D'accord. Je vais dire un peu un truc trash, mais un enfant qui n'a pas de bras, il va quand même passer au morceau. D'accord.
Voilà, c'était le moment trash Milchaker.
Voilà, c'était le moment trash Milchaker. Non, mais parce que on en arrive à des aberrations, c'est-à-dire que on entend que le bébé va s'étouffer si on lui amène nous-mêmes à la bouche. C'est faux. C'est-à-dire que, tu vois, il y a plein de récepteurs dans la bouche. C'est-à-dire que moi, si je te ferme les yeux et si je te mets un truc dans la bouche, tu vas pas t'étouffer, en fait. Tu vas même réussir à le reconnaître et savoir comment tu dois le mâcher. Donc oui, le bébé, il est en découverte, mais le bébé, il a plein de sensorialités qui marchent déjà. Donc, si ton bébé ne veut pas le mettre lui-même à sa bouche, eh ben, tu prends le morceau et tu lui proposes pour qu'il explore avec ses lèvres et ses dents.
Oui, et puis il faut arrêter avec ces trucs-là. Enfin, je veux dire, la DME, ça fait pas très longtemps qu'on est dessus. Et on serait quand même sur une population mondiale et un taux d'étouffement complètement hallucinant si cette affirmation était vraie. Donc, les bébés ne s'étouffent pas avec tout et n'importe quoi. Tu le répètes à chaque fois, c'est des experts sensoriels. Donc voilà, pas de panique. Voilà, on reparlera plus tard des injonctions autour de la diversification menée par l'enfant et d'autres choses. Mais donc voilà, pas de panique. Vous pouvez aussi proposer des choses à vos enfants.
Oui, parce que tu vois, des fois, ça va un peu les rebuter de prendre l'aliment et ça va rassurer que ce soit maman ou papa qui prenne l'aliment, en fait, et qui lui propose, parce que du coup, ça devient quelque chose de sécure que je peux explorer sans difficulté et sans appréhension. Donc, faut pas hésiter à nous les rassurer par notre geste. Et puis, bah, tu parlais de textures. Il y a forcément des textures qui peuvent être plus simples pour l'enfant, notamment ce qui va pas mouiller les mains. Tu vois, des enfants qui sont un peu sensibles, et bah, peut-être que commencer par justement des pains de fleurs sans rien dessus. Et ben ça sera plus rassurant pour lui que commencer par l'avocat qui glisse, qui en met plein les mains et c'est dégueu quoi, tu vois. Cet enfant un peu hypersensible, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut des fois, tu vois, souvent je dis qu'il n'y a pas une diversification qui est la meilleure, il y a des diversifications et autant que d'enfants. Donc l'idée c'est de s'adapter à son enfant et de lui donner, de lui proposer ce dont il a besoin pour passer ses transitions.
Bien sûr, ouais, mais ça paraît évident de toute façon quand tu le dis à chaque fois. Est-ce que du coup, puisque tu as parlé d'hypersensible, etc., est-ce qu'on peut en profiter sur ce sujet-là en particulier pour se refaire la petite différence, tu sais, hypersensible et hyposensible, parce qu'on sait que c'est pas facile à discerner.
Ouais. Alors, tu vois, quand on a des troubles de la modulation sensorielle, comme nous, on va l'appeler dans notre jargon, tu vas soit hyper réagir à des choses, soit tu ne vas pas assez réagir à des stimuli. Pour schématiser, tu as le bébé explosif, celui qui hyper réagit, c'est-à-dire que tu t'approches de la bouche, il hurle, t'approches une cuillère, il hurle, et tu as ce bébé hyporéactif, ce bébé trop calme, ce bébé que tu oublies presque, mais qui ne va pas interagir avec son environnement. Donc souvent, ce bébé hyper réactif, lui, il met rien en bouche, il explore pas. C'est ce bébé que tu poses par terre et que tu es sûr qu'il va rien mettre à la bouche et qu'il va pas se mettre en danger. Et ce bébé hyporéactif, lui, au contraire, tu vois, dans le profil un petit peu clinique, tu peux avoir un bébé qui va mettre tout à la bouche ce qui se mange, mais qui va pas vouloir mettre ce qui se mange pas, parce que ce qui se mange, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que tu as des textures différentes, ça peut être mouillé.
Alors l'inverse du coup, parce que
l'inverse. Dit... Oui, excuse-moi. Je reprends. Ce bébé hyporéactif, lui, il va mettre tout ce qui ne se mange pas à la bouche. Et quand ça se mange, il va moins le mettre ou pas du tout le mettre à la bouche parce que l'aliment a un côté variable qu'il n'est pas capable d'appréhender. Donc, okay. Du coup, ils préfèrent pas du tout y aller.
D'accord. Donc, dans le cas présent, l'hyposensible met des choses à la bouche, mais pas ce qui se mange. L'hypersensible, rien. Rien ne m'approche.
Ouais, exactement.
Et lesquels sont les plus à même d'avoir des difficultés à le faire tout seul et vont préférer que quelqu'un le fasse pour eux, les hypersensibles, du coup?
Ouais, mais les hypos aussi. Parce que les hypos, tu vois, tu peux avoir la proprioception qui va aussi être engagée. Et la proprioception va aussi avoir une incidence dans ta manipulation, c'est-à-dire dans l'appréhension de ton aliment. Et puis, ben, si je régule pas bien, je vais soit trop écraser, soit pas assez serré. Et ben, je vais jamais réussir à le mettre à la bouche, ce truc, quoi, que tu me proposes.
Oui, donc même en termes, du coup, de motricité, sensibilité au niveau de la main. Et là, on parle pas plus que de la bouche.
Non, exactement.
Ok, très bien. Bon, là, de toute façon, après, voilà, si vous reconnaissez votre bébé dans une des deux catégories, voilà, terminez le podcast, mais il faut que vous alliez consulter. C'est pas le podcast qui va régler les problèmes. Vous mettez en place les deux, trois tips que Marie, elle vous donne, là, et puis après, il faut que vous vous fassiez accompagner. Et puis, relativement rapidement, parce que si on laisse pas la chose s'installer, ça peut très, très vite se régler, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que quand tu interviens en prévention, donc, dès que tu as une difficulté à 6 mois, ben, en 2-3 séances, c'est fini. C'est-à-dire que moi, j'avais accompagné un bébé qui avait bien commencé sa DME, mais qui a eu du mal dans la transition gros morceau, petit morceau. Et en une séance, c'était torché. Donc, c'est-à-dire qu'en une séance, il est venu. Et il n'y a rien de magique là. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es meilleur qu'une autre ou que tu as. Non, c'est qu'en fait, en une séance, tu as observé le bébé, tu as vu ce qui était compliqué pour lui, tu as donné des astuces à la maman, on a essayé des choses, ça marche. La maman, elle repart à la maison et le bébé mange.
Mmh. Oui, ça peut aller très vite. Et donc, une fois que c'est installé, que là, bon, bah voilà, c'est acté, il y a des difficultés au moins, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de la panade avant de me retrouver à 3 ans avec un enfant qui ne peut pas aller à la cantine?
Alors, une fois que c'est installé, il va falloir... réapprendre le bébé à pouvoir apprivoiser cet aliment. Sachant que, tu vois, à 2 ans, tu as la néophobie alimentaire, on était des hommes préhistoriques avant, et donc du coup, quand on était des hommes préhistoriques, à 2 ans, notre petit homme, ben, il prenait de l'autonomie, et il fallait que son cerveau le protège de mettre à la bouche des aliments qui étaient non comestibles et qui pouvaient le tuer.
Ça vient donc de là?
Mais ouais. Donc, cette fameuse néophobie alimentaire, elle est aussi là pour protéger l'enfant. Ah. Parce que notre enfant de 2 ans, eh ben, c'est un petit être qui grimpe, qui bouge, qui va explorer. Donc, il est moins sous surveillance de maman, entre guillemets. Donc, ça nous arrange pas dans notre schmilblick, nous. Parce que arrivé à cette période-là, le petit homme, il est fait pour avoir peur de ce qu'il ne reconnaît pas. Et... si je ne l'ai pas mangé avant, si cet aliment est complètement inconnu, il sera d'autant plus rejeté par ce petit homme. Donc, okay. Il est important, en fait, de très rapidement réapprivoiser les aliments avec tous ses sens, avec plaisir, c'est-à-dire qu'on va réapprendre petit homme à découvrir des aliments qu'il ne connaît pas et avec une notion de plaisir, sans forçage, pour pas qu'il inscrive une mauvaise émotion sur... les aliments et notamment les aliments en morceaux. Et pour ça, on va proposer des séances un peu d'habituation progressive avec des tips à faire à la maison d'une séance à l'autre.
Très souvent, on entend les parents nous dire qu'on leur a dit ben, que si, il fallait qu'ils mangent, que c'était important, si éventuellement, en plus, il y a un sujet poids, c'est chez cet enfant-là. Je pense aux bébés qui sont nés prématurés où c'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose qui planait toujours au-dessus de ces enfants ou... où il faut qu'ils mangent, quoi. C'est le nerf de la guerre, il faut qu'ils grossissent assez. On est d'accord qu'il ne faut pas forcer hein, les enfants à manger.
Il ne faut jamais forcer. Et là, tu vois, on va dire « Ah ouais, mais c'est votre truc d'éducation bienveillante, machin. » Pas du tout. En fait, c'est vraiment les études qui mettent en avant que les attitudes de forçage, de pression parentale vont avoir un effet délétère sur la performance du repas, donc la sérénité du repas. Et que surtout, il y a un 8e sens qui s'appelle l'interoception. Et dedans, dans l'interoception, on a les émotions, on a la faim, la satiété, la douleur, la température, le remplissage du rectum, enfin toutes ces choses-là. Ouais. Et que tout ce qui va être proposé à l'enfant avec émotions négatives, va être engrammé dans l'insula, donc dans notre cerveau, de façon négative. Et donc, on va garder un souvenir négatif et qu'on peut même avoir des manifestations organiques de ce souvenir. C'est-à-dire que si on a tous parfois été forcés à l'école à manger des aliments qui n'étaient pas OK pour nous, et en fait, ça peut laisser des traumatismes. C'est-à-dire que rien qu'à l'évocation de l'aliment, la sensation ou l'odeur de cet aliment, tu vas juste avoir la nausée ou envie de vomir, qui n'est pas un nauséeux sensitif, mais qui est un nauséeux émotionnel. Parce qu'en fait, ton cerveau a mémorisé le fait que ce soit très, très négatif comme émotion et qu'il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Donc, il se met en comportement de défense.
Voilà, donc on ne force pas un enfant à manger, on cherche des solutions autrement. Il y a des solutions.
Ouais. Et surtout, tu vas manger, avaler, c'est une finalité en fait. Et qu'il y a plein d'autres choses à faire avant d'avaler que de sentir, mettre sur les lèvres, apprendre à cracher. Il n'y a rien de plus angoissant que de ne pas pouvoir cracher un aliment que tu n'arrives pas encore à maîtriser. Et qu'en fait, quand tu vas dire goûte à ton enfant, quand tu dois le passer de l'alimentation lactée à l'alimentation solide, et ben déjà, tu peux lui donner de l'anxiété. Par contre, si tu lui dis est-ce que tu arrives à le sentir, ben c'est pas la même chose et c'est pas la même, tu lui demandes pas, c'est pas le même défi que tu lui demandes. Donc il y a un défi qui est réalisable et l'autre qui n'est pas encore réalisable. Donc tu vois, quand on dit goûte au moins, je dirais c'est goûte, c'est la fin en fait. Sans au moins, peut-être on peut le dire, mais goûte au moins, non.
Ok, d'accord. Ouais, donc on force pas, quoi. Ça sert à rien. On peut l'aider à percevoir, donc regarder, toucher, mettre sur les lèvres. Tu parles de faire des bisous des fois aux aliments,
oui,
c'est
oui,
ça ?
Ouais. Ouais, bah c'est tout simple. Un enfant qui a pas voulu manger un aliment, enfin qui a pas pu le manger, souvent, ben on va les mettre à la poubelle et puis on va dire au revoir à la pomme de terre, puis on va dire au revoir à la tomate, puis on va dire au revoir en faisant un bisou, quoi. Donc, et c'est OK. Et du coup, ça, c'est déjà une grande victoire, tu vois. Même s'il ne l'a pas mangé, il l'a découvert en termes de texture, en termes de goût et d'olfaction.
Ouais, OK, très bien. Et donc, voilà, au moindre comportement d'évitement, en tout cas, on ne force pas. Ça, c'est important. Et on rappelle, les comportements d'évitement, c'est le bébé qui détourne la tête, il pleure, le nauséeux, il pousse la cuillère, enfin voilà, il se met en extension.
La bouche,
Il montre que c'est pas ce qu'il veut. Et les bébés savent très bien montrer ça.
Ils communiquent très bien là-dessus.
Ouais. Donc voilà, si on voulait résumer tout ça, on se dirait que déjà on force pas, on observe son bébé, est-ce qu'il est attiré, pas attiré par ce qui se passe, est-ce que quand on lui propose, est-ce qu'il prend tout seul, est-ce que s'il prend pas tout seul, est-ce que quand on lui propose c'est rassurant, oui, non, est-ce que juste regarder, toucher, sentir, mettre sur les lèvres, est-ce que c'est possible? Et si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut essayer plein de choses, mais ne rien forcer et surtout se faire accompagner, ne pas rester seul dans cette histoire-là, parce que visiblement, ça peut se régler très vite en plus. Hein, ce serait quand même dommage de ne pas se faire accompagner dans ces conditions. Et donc, on dédramatise parce que finalement, c'est très fréquent. 50% des consultations sur des difficultés alimentaires, ça veut dire que y en a une partie qui se règle spontanément déjà, donc ça, c'est bon signe. Et que si ce n'est pas votre cas, Ça peut se régler relativement facilement quand même avec des consultations. Qui vient travailler ça ? Donc les ergothérapeutes, j'imagine, qui sont spécialisés dans le domaine. Et les orthophonistes ?
Alors, il faut être spécialisé dans cet accompagnement du bébé et du tout petit et dans ces transitions-là aussi. C'est-à-dire que, tu sais, on est très bien formé. J'ai parlé pour ma part, je ne parlerai pas au nom de mes collègues orthophonistes, mais on est assez bien formé sur le trouble. Alors, nous, en ergothérapie, on apprend à être formé sur la performance occupationnelle. C'est-à-dire, tu vois, ton occupation, là, en l'occurrence, le repas, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas ? Donc là, on va demander aux parents, est-ce que la façon dont votre enfant mange est satisfaisante pour vous ? Et s'ils te répondent, c'est de l'anxiété, c'est des cris, c'est des pleurs, ils détournent la tête, eh bien nous, on va intervenir en tant qu'ergothérapeute pour qu'on rétablisse un repas qui est serein. Enfin, les repas, c'est quand même 4 fois par jour, quoi. Donc, ce n'est pas une occupation qui est anodine dans la vie des parents et dans la vie de l'enfant. Donc, si l'enfant n'est pas bien, si les parents ne sont pas bien, nous, en tant qu'ergothérapeute, on a le devoir de les accompagner sur l'occupation quand on est formé aussi à accompagner ça. Tout le monde n'est pas formé et tout le monde ne souhaite pas non plus faire cette spécialité-là.
Oui, que ce soit les ergothérapeutes comme les orthophonistes, vous avez un spectre d'action qui est tellement large que vous ne pouvez pas être spécialisé dans tout, en fait. Donc,
il faut avoir la volonté.
Oui,
ouais, t'as pas forcément la volonté d'être spécialisée dans tout, quoi.
Donc, il faut aller voir des gens qui se sont formés spécifiquement au sujet et qui sont formés en bébé, parce que trouble alimentaire veut souvent dire déjà plus vieux, parce qu'on s'inquiète relativement tard en général. Et accompagner le bébé, c'est pas pareil qu'accompagner le 4-5 ans, quoi, c'est ça?
Non. Non, parce que accompagner le bébé, c'est accompagner les parents avant tout aussi. C'est-à-dire que nous, en ergothérapie, tu vois, on va parler de co-occupation en pédiatrie en général, mais notamment pour les tout petits, où du coup, nos patients, entre guillemets, c'est le parent et le bébé, et ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est-à-dire que on va autant prendre en compte ce qu'on évalue chez le bébé que prendre en compte le recueil de la plainte des parents dans leur occupation.
Ok, très bien. Bon, bah très bien, bah il vous reste plus qu'à kiffer avec votre bébé la nourriture, et si ça se passe pas bien, vous savez quoi faire. Non, non, mais c'est vrai, c'est hyper important, parce que les repas, bah en effet, c'est 4 fois par jour, et que quand ça se passe mal, ça tourne à l'enfer, ça tourne à l'enfer. Pour peu que le bébé, il ait le sommeil perturbé aussi, alors là, si c'est la bouffe et le sommeil, ça devient l'enfer à la maison, quoi. Ce bébé qui mange pas, c'est vite anxiogène, en fait, pour tout le monde, et après, l'anxiété vient en rajouter une couche sur le problème, donc...
Voilà. Et il peut y avoir des liens, c'est-à-dire que les études que je lisais aussi, c'est que lien alimentation et sommeil, bah effectivement, il y en a. C'est-à-dire qu'un bébé qui va pas trop manger la journée, il peut aussi très bien se rattraper la nuit, que ce soit au sein ou au biberon. Hein. C'est-à-dire que j'ai les deux, moi. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas focus allaitement et se dire que c'est la faute de l'allaitement. Non, 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 le bébé, il va juste prendre ses quantités comme il peut prendre ses quantités. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider, comme tu dis, pour que les repas soient sereins et que ce soit plus simple au quotidien, quoi.
Ok, top. Bon, bah parfait. Merci Marie pour toutes ces informations. Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit?
Ouais, hein. Moi, je crois qu'on s'est tout dit, là.
Ouais, je crois qu'on s'est tout dit. Et puis, vous savez, la suite, de toute façon, c'est de se faire accompagner de façon individuelle. Pour pas, comme on s'automédique pas, on fait pas non plus ça, on fait pas le petit chimiste chez soi avec ces histoires-là, on essaie de prendre ça en charge correctement et au plus tôt, et voilà. Ok, très bien, et merci Marie pour toutes ces infos, et puis je te dis à très vite dans Milkshaker sûrement.
À très vite, et merci Charlotte.
Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue? Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience? Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans? Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.